Alors je vous présente les camarades à la tribune. À ma droite, Catherine Brun, qui sera la candidate aux prochaines élections législatives à la 3e circonscription de l'Isère. Au fond à gauche, c'est Rémi Adam, qui est à l'extrême droite. Et puis moi-même, Chantal Gomez, je serai candidate à la 2e circonscription. Alors, juste à côté de moi, notre candidate Nathalie Artaud, qui fera entendre le camp des travailleurs. À l'occasion de cette journée de lutte internationale pour les droits des femmes, que notre organisation Lutte Ouvrière a toujours fait le choix de présenter une femme et une travailleuse à cette élection présidentielle. Donc Nathalie Artaud qui nous représente et je lui laisse tout de suite la parole.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, vous le savez sans doute, le Conseil constitutionnel a enregistré 557 parrainages pour ma candidature. Je suis donc candidate. Assurer effectivement que notre voix soit présente dans cette élection. Je sais qu'il y en a un ici et donc je le remercie chaleureusement. Mais attention quand même, pas trop d'enthousiasme parce que vous savez, je ne resterai qu'une petite candidate aux yeux des médias. Mis à part les 15 derniers jours où il existe une stricte égalité de temps de parole, les médias vont continuer d'organiser, vous savez, ces deux campagnes parallèles. Une campagne avec les grands candidats qui auront le temps de s'expliquer en long, en large, en travers, et puis une campagne avec les petits candidats qui auront quelques bribes d'interviews par-ci, par-là. C'est en contradiction avec toutes les déclarations de neutralité et de pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Alors autant dire que chaque chaîne fait à peu près ce qu'elle veut. Les multimilliardaires comme Bolloré, Bouygues, Drahi, Lagardère, qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer des campagnes électorales sur mesure. Et ils ne s'en privent pas. Mais je dois dire que ce n'est pas beaucoup mieux non plus du côté des télés et des radios publiques. Alors oui, le système médiatique est bien verrouillé, mais en même temps, il ne faut pas s'en étonner. Alors, les travailleurs qui manifestent ou sont en grève ne sont pas mieux traités par les médias. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent ainsi leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est réellement dans le système et qui ne l'est pas. Alors d'un certain côté, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage, nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe à l'élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir président de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'avons jamais rêvé d'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire qu'ils peuvent en imposant donc une gestion collective de la société, à condition bien sûr qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans cette élection, eh bien, nous pouvons faire avancer ce combat. C'est pourquoi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Possible. Cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, sont invités de façon inattendue. Et en plus de ce casting renouvelé, on a droit à des rebondissements avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions et bien sûr des démêlés judiciaires. Alors oui, cette campagne, avec tous ces coups de théâtre, ces hommes politiques mis en examen, a de quoi surprendre. Mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique à bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité tous ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle a eu raison du ronron de l'alternance gauche-droite. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Parce que, quelles que soient les péripéties politiciennes, le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds. Parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de cette bourgeoisie. Fillon, et il lui ressemble d'ailleurs, comme deux gouttes d'eau. Son arrogance, ses leçons de morale, du genre « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », eh bien c'est l'arrogance et c'est le mépris de la bourgeoisie pour le monde ouvrier. Quant au programme de Fillon, eh bien, c'est simple, il a repris l'intégralité de la politique du MEDEF. La fin des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, autrement dit, il déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches, originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes. C'est le culte de l'individualisme du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés, sans contrat de travail et sans protection sociale. Bien sûr, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande, pendant 10 ans. Avec, d'un côté, la pérennisation des cadeaux au patronat, c'est la baisse de l'ISF, la continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, puis de l'autre, la suppression de postes de fonctionnaires. Pour Macron, c'est 120 000 postes de fonctionnaires en moins, l'augmentation de la CSG, 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à Le Pen, eh bien c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Elle aussi, elle prévoit des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais où veut-elle prendre l'argent? Eh bien, sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce. Et elle veut s'en prendre à des travailleurs, parfois ici, depuis 5 ou 10 ans, en taxant leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. Autrement dit, elle veut s'en prendre à des ouvriers, à des intérimaires, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, divisée pour régner. Alors oui, Le Pen est bien la dernière roue de secours de cette bourgeoisie. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Il parle de 750 euros d'ici à, on ne sait plus trop, hein, 2022 dernièrement, mais on se demande même si, même pour 2022, il le garde son revenu universel, mais enfin quand même. Tout son raisonnement part de l'idée qu'il y aura de moins en moins de travail et sous-entendu de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de toucher 750 euros par mois pour compenser le fait de ne pas avoir de boulot ne fait rêver aucun travailleur. Parce que un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Et il n'y a que chez les bourgeois, en réalité, qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Mais du côté du monde ouvrier, c'est pas le cas. Et position significative aussi de Hamon, c'est lorsqu'il évoque la réaffectation et le conditionnement du CICE, parce que, dit-il, les 41 milliards ont été mal dépensés. Mais il ne demande pas aux entreprises qui ont empoché l'argent de rembourser ou de rendre de compte. Ce serait pourtant logique. Quand il y a une tromperie sur la marchandise, eh bien on demande à être remboursé. Et ça, Hamon ne l'imagine pas une seconde. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il ne veut en réalité rien imposer au grand patronat, il ne veut pas le contraindre à quoi que ce soit et surtout pas à payer. Et en cela, il est le digne héritier du Parti Socialiste. Aujourd'hui, les Macron, Fillon et Le Pen, Hamon, s'opposent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux, mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors leur politique consiste à amadouer ces mêmes capitalistes, à les bichonner, et il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire les quatre volontés patronales. Eh bien, je suis candidate pour dire exactement l'inverse. Je suis candidate pour dire que les forces vives du pays, c'est nous. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnault, les Bettencourt, les Michelin, les Peugeot, sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les conducteurs de train et pilotes d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent donc passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Eh bien, il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite, tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commandes assurées. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Et il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profit chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore 650. C'est la même chose dans le secteur bancaire, des assurances, des médias. C'est la même chose chez SFR. Les grands groupes capitalistes sont de grands fabricants de chômeurs. Alors la première des choses, c'est de les empêcher de nuire. Et je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mises à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait des mesures salutaires pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail auxquels il faut rajouter le temps de transport sont devenus insoutenables. Eh bien, il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui se passe dans la plupart de ces grandes entreprises avec les plans de compétitivité qui imposent heures supplémentaires et samedi travaillé obligatoire. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 7, 8, 9 ou 10 millions. Alors oui, il faut lui imposer des mesures contraignantes. Et regardez encore les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Pour ce qui est des logements, il manque 1 million de logements accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? Il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus parce que le chômage est LE fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme et à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que dès la peur de l'autre, le rejet de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité, il faut un travail et un salaire pour tous. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, il faudrait qu'on se la paye, nous. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle explique, elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont les salariés, les millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner, même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, eh bien ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, parfois davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et après tout ça, il faut encore payer l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. À la fin, eh bien, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors, 1 800 euros net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être transformés en salaire. Parce que je l'ai expliqué, tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Et ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 150 euros net, était de 1 000 euros net. Et déjà, à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. En 10 ans, le SMIC a donc augmenté de 15%. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG? De 65% en 10 ans. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois, une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, de celle des loyers, du gaz, des impôts, des taxes, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation ou sa facture d'électricité ou d'assurance avec celle de l'année précédente pour voir que tous les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins, sur leur fortune, accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'art de gouverner et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien, la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple de Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures ont fermé des dizaines de magasins et que 2000 emplois sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe? Bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin, il est payé 1400 euros net et tous les employés sont autour du SMIC. Ce qui a tué Vivart, ce sont des fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui l'ont forcé à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds, à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Eh bien, si les salariés du groupe Vivart avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG parce qu'elle le prépare, elle le tape et elle l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et c'est pour ça qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut revendiquer la levée de ce secret. Cette mesure serait un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Et on serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. On saurait à quoi s'en tenir et on pourrait donc anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour imposer nos intérêts. Et alors, on mesurerait aussi l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps sur toute l'économie. Promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme et les objectifs qui découlent de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Et le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec tous les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, ils sont désorientés. Si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence, contre la politique anti-ouvrière qui est relayée autant par les gouvernements de droite que de gauche. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire un parti. Mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui tant à la classe ouvrière. N'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable, de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Eh bien, il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros, les vrais 35 heures. C'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement. Mais il faut dire si l'on est prêt ou pas à renverser cette finance, c'est-à-dire à l'exproprier. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie. Pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Et avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc. Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Et quand on est exploité, quand on appartient au monde ouvrier, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république ou à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout. pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Y compris quand on est étudiant, comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, de ses passions? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie de France. C'est brouiller les consciences des travailleurs et c'est une façon de les détourner de leur combat de classe. Alors laissons les mots d'ordre de souveraineté de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète et émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur lui ne mèneront nulle part si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et son mouvement qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, eh bien, notre campagne nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Aujourd'hui, même le 8 mars, c'est jour pour jour, le déclenchement, l'anniversaire, le centenaire donc, du déclenchement de la Révolution russe, puisqu'elle a démarré sur la mobilisation des femmes pour la journée. La preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir, qu'elle pouvait s'en servir pour transformer la société par en bas, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisée pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de toute la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, surtout, sans doute le plus important, il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et caricaturant, et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers, de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée d'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait le lit aussi de cette délinquance et du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord, vous les avez entendus, il faut des frontières toujours plus élevées, toujours plus étanches. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot, les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions, l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards, et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes, ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous disent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer avoir une retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploités, nous devons avoir conscience que nous sommes tous des migrants potentiels. Alors ce n'est pas qu'une question de solidarité. C'est aussi notre intérêt que de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes nationalités, de toutes les religions et de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation, mais débarrassée aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Et ils sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques. Car il en va de la préservation de notre environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir, ils sont bien incapables d'empêcher les catastrophes qui sont eux-mêmes annoncées. Pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Alors tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Oui, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie. Ils illustrent la nécessité de gérer collectivement les moyens de production dont nous disposons et de les planifier en fonction de nos besoins. Et cela, seuls les travailleurs peuvent le réaliser. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste, la perspective d'une société vraiment humaine. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers, Non, de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles, qui galèrent au chômage, au petit boulot. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi est le produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants, il y a peut-être un an ou deux de cela, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée dans la rue. Il y avait encore beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, sur les chantiers. Alors oui, il faut que cette classe ouvrière s'exprime aussi sur la scène politique et dans cette élection. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura pour mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Dans cette élection, c'est exactement la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, de les départager. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans crainte d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire de façon à se protéger est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec les valeurs du mouvement ouvrier. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre, et puis c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas les moyens de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pourrons être fiers d'être à contre-courant. Les institutions sont faites ainsi, il fallait un nom, et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias, et je me battrai comme je pourrais sur les plateaux de télé, à chaque fois que l'on m'en donnera la possibilité. Une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, il y a plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions et c'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique ou de voter. Ils sont dans nos familles, ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre et de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, Ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ces idées parmi les nôtres est quelque chose de très important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent, parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe, à laquelle des millions d'exploités sont confrontés. Alors oui, tôt ou tard, les travailleurs chercheront nos idées, ils en auront besoin. Alors rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles. Donc vous l'aurez compris, pour que ce soit une bonne campagne, que ce soit une campagne réussie, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne. De l'élection en mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous? Bien, nous irons au travail, beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim, et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait parfaitement dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition, mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, eh bien, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui préparera les travailleurs aux luttes que forcément nous aurons à mener.